Radio Okapi. Okapi.
Bonsoir. Au sommaire de ce journal, les députés de l'opposition claquaient la porte à la plénière de ce dimanche au Grand Hôtel Kinshasa. Ils s'insurgent contre l'examen du projet de loi modifiant la loi sur la CENI avant que les divergences soient aplanies au niveau de la commission politique, administrative et juridique. Une rencontre des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de la CIRGL s'est tenue ce dimanche à Kampala. Cette réunion s'inscrit en prélude du sommet de chef d'État de cette conférence qui doit s'ouvrir dans quelques heures à Kampala. Nous nous rendons aussi en Mbujimayi où l'on signale qu'un conflit coutumier a causé des dégâts matériels importants. Les députés nationaux sont en plénière depuis cet après-midi. Ils débattent sur plusieurs matières dont les projets des lois modifiant la loi sur la CENI. Nous avons donc en ligne depuis le Grand Hôtel Kinshasa Mimi Kindou. Alors Mimi, comment se déroulent les travaux sur place?
La plénière examine article par article la proposition de loi instituant la Commission nationale de droits de l'homme en RDC. Mais avant cela, il était question de présenter le rapport de la commission PAJ sur le projet de loi modifiant la loi sur la commission électorale nationale indépendante. Cependant, tout cela a eu lieu en l'absence de l'opposition qui a quitté la salle quelques minutes plus tôt.
Alors Mimi Ngumba, qu'est-ce qui explique l'attitude de l'opposition?
Le problème, comme vous pouvez l'imaginer, tourne autour de la loi modifiant et complétant la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Les députés de l'opposition exigeaient au préalable la mise sur pied d'une commission spéciale avec mission de vider les divergences dégagées lors des travaux en commission. Ils affirment que ce compromis avait été trouvé de commun accord avec le président de la Chambre basse du Parlement. Et donc, il n'était pas question de procéder d'abord à la présentation du rapport qui, selon eux, était incomplet. Il faut dire qu'après leur départ, les travaux en plénière se sont poursuivis normalement avec seulement les députés de la majorité. Et l'Assemblée nationale a finalement mis en place cette commission spéciale. Entre-temps, nous apprenons que les élus de l'opposition se réunissent pour une concertation à l'hôtel Faden House, situé à deux pas du Grand Hôtel Kinshasa.
Merci beaucoup Mimi Ngumba. Je rappelle que vous êtes au Grand Hôtel Kinshasa.
Merci François.
J'ai dit au sommaire, le ministre de la Défense et ceux des Affaires étrangères des 11 pays membres de la Conférence internationale de la région de Grand Lac viennent de clôturer leur rencontre à Kampala. Jusque-là, rien n'a filtré de cette rencontre, mais de certaines sources de la CIRGL, les ministres avaient comme objectif de mettre en commun les résultats de leurs travaux de 3 jours pour produire un document à soumettre aux chefs d'État et de gouvernement des 11 pays ce dimanche soir. Envoyé spécial à Kampala, Bernard Nyangi.
Les ministres des Affaires étrangères, membres du comité international et régional au sein de la CIRGL, ont décortiqué, entre autres, le rapport des mécanismes conjoints de vérification lors de leur réunion du 5 octobre dernier. Ceux de la Défense ont, quant à eux, reçu et amendé le rapport de l'équipe militaire d'évaluation hier et aujourd'hui. Ce rapport donne une idée globale sur, notamment, la situation sécuritaire et humanitaire actuelle au Nord Kivu, et aussi Kivu, où selon les experts de la CIRGL, le nombre de déplacés internes a augmenté de plus de 320 000 les 3 derniers mois. Jusqu'à rien ne filtre de ces rencontres. Toutefois, les sources concordantes nous renseignent que les documents conjoints qui sanctionnent cette rencontre des ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense sera soumis au président et au gouvernement des 11 pays membres de la CIRGL, dont la réunion est attendue dans quelques heures ici dans la capitale ougandaise. De Kampala, Bernardin Ayi pour Radio Okapi.
Randouna Nituri, où deux officiers réfractaires des FARDC se réclament proches du M23, se sont rendus hier aux forces armées de la RDC. Information confirmée par les commandants FARDC à Nituri. Il s'agit du lieutenant-colonel et du major. Donc, ils se sont rendus avec une dizaine d'hommes, des armes et munitions. Willy Akonda.
Ces militaires réfractaires de l'armée nationale se sont rendus au 906e régiment des FRDC à Marabo. Il s'agit du lieutenant-colonel Imoa Mungala Robert, ancien chef d'état-major à la 9e région militaire, le major Nonzi Bondokana alias Taikondo, ancien commandant bataillon des FRDC à Marabo, village situé à 35 km au sud de Bounia. Derrière eux, une dizaine d'éléments qu'ils avaient recrutés après leur défection. Ces derniers sont soit anciens démobilisés, soit des miliciens issus des groupes armés évrant en Ituri. Ces hommes se rendent avec leurs armes, 2 lance-roquettes, 2 PKM et une dizaine d'armes AK-40. Selon le commandant FRDC en Ituri, le colonel Falchikabwe, ils seront transférés à Kinshasa pour connaître leur sort. Un avis qui ne partage pas la société civile de l'Ituri. Pour Jean Bosco Lalo, président de cette structure, transférer ces hommes à Kinshasa est une façon de dévier la justice et de cacher la vérité sur la défection au sein des FRDC de ces deux officiers à leur tête. Par ailleurs, la société civile de l'Ituri demande aux autorités militaires de les transférer devant les instances judiciaires compétentes sur place à Bunia ou à Kisangani.
Sur un autre chapitre au Kasaï oriental, 40 maisons incendiées, plusieurs autres biens détruits. C'est le bilan d'un affrontement entre deux groupes de personnes suite à un conflit de pouvoir coutumier. Les faits ont eu lieu vendredi dernier dans le groupement de Mbo Lukinda, à environ 110 km de Kabinda. Actuellement, la population s'est réfugiée en Brossan. La police a dépêché hier les éléments sur les lieux. Dembou Jumaï, Nikimputu, nous fait le point.
Ce conflit de pouvoir coutumier a débuté dimanche dernier. Le chef de groupement de Mbo Lukinda, du nom de Ntambo Kabulo, en partance pour Kabinda, s'est fait attaquer par des hommes armés de machettes et fusils. Ces personnes se réclamaient proches de son opposant, Champa Fuamba. Alors qu'il suivait le soin à la cité de Kabinda vendredi, le chef de groupement de Mbo Lukinda affirme avoir reçu la nouvelle selon laquelle son groupement était attaqué. Le bilan, selon lui, fait état de 40 maisons, 2 camions, 6 motos et 4 moulins incendiés. Une somme de 15 000 dollars américains et plus de 17 millions de francs congolais volatilisés. Pour l'instant, la population s'est réfugiée en brousse. Toujours au dire de la victime, c'est depuis le mois de mars, lors de son installation officielle, qu'un dénommé Champa s'est autoproclamé également chef de groupement. Le chef de groupement Mbo Lukinda fustige tout de même la non-implication des autorités judiciaires qui ont laissé pourrir l'affaire sans aucune condamnation. Le commissaire de district de Kabinda, joint au téléphone, reconnaît le pouvoir de Ntambo Kabulo. Toutefois, il n'essaie de donner avec précision actuellement le bilan réel de l'attaque. Il dit attendre le rapport de l'administrateur du territoire dépêché avec quelques éléments de la police sur le lieu d'affrontement. Mbujimayi Nikimputu, Radio Okapi.
Dans le reste de l'actualité, un garçon de 15 ans tué hier samedi à Malembankoulou par un hippopotame. Ce cas est le quatrième enregistré en une année, signale la société civile de ce territoire. Son président lance un cri de détresse auprès des autorités pour que ces animaux qui sont parmi les espèces protégées soient évacués. Selon lui, leur présence dans le fleuve à proximité des villages ne permet pas aux populations de s'adonner à la pêche et leur principale activité. On écoute Tridon Kaloumé, joint au téléphone par Jean Gandou.
Les hippopotames nous ont causé des grands dégâts. 2011, ils ont tué 3. Maintenant, en 2012, ils tuent encore une quatrième personne. Dans le fleuve Doualaba, ici, juste au beach. Ce n'est pas loin de la cité. Notre activité principale, c'est la pêche. Et la présence des hippopotames empêche la pêche. Nous vivons médiocrement ces derniers temps. Toute la population a peur d'aller faire la pêche et ça influence directement la vie quotidienne. Nous demandons aux autorités de prendre des mesures urgentes pour abattre ces hippopotames qui nous mettent mal à l'aise. Les enfants ici chez nous sont riverains, ils sont habitués à sortir de l'école, ils vont là-bas pour faire la pêche car c'est tout près du village, il n'y a pas de distance. Au niveau du territoire, l'administrateur n'a pas la décision à prendre sur l'abattage des hippopotames. Il faut que la décision vienne de Kinshasa.
L'initiative pour la transparence des industries extractives entend publier son troisième rapport dans un mois. Pour ce faire, l'ITIA estime que l'Équateur et les Bandundu sont les deux provinces en retard des sensibilisations en cette matière. Mais qu'est-ce qu'explique alors cette situation? Le professeur Mac Ndumba Jérémy, coordonnateur national de l'ITIA en séjour en Bandaka, répond au micro de Jean-Michel Liboulamopolo.
Il y a un plan d'action de l'ITIER qui est suivi régulièrement. Mais nous n'avons pas senti l'appropriation vraiment au milieu du public. C'est pourquoi nous avons inscrit dans notre plan d'action une activité qui s'appelle vulgarisation de l'ITIER. Il y a des provinces où on n'a pas encore fait cette activité. Mais de manière claire, je dois dire la vérité, que comme l'activité extractive est très très intense au Katanga, on parle trop de l'ITIER. Dans le processus de vulgarisation, nous sommes maintenant à ces deux provinces pour qu'elle aussi, quand le prochain rapport viendra, elle puisse déjà connaître très bien. Nous allons rester en Bandaka jusque mercredi. Le jeudi matin, les ateliers de formation des formateurs à la vulgarisation vont commencer. Dès qu'ils ont terminé, je descends dans le Bandundu pour sensibiliser et l'équipe va me suivre pour la formation.
Une note sportive avant de vous quitter. Demi-finale de la Ligue des champions de la CAF ce dimanche à Lubumbashi. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe sont tenus en échec par les rouges et or de Tunis. Avec un score de 0 but partout en match aller. Les poulains de l'entraîneur franco-sénégalais Lamine Diaye ont tout donné, mais ils n'ont pas réussi à violer la cage du gardien tunisien. Les joueurs de l'Espérance ont joué à la défensive et donc se sont contentés des contre-attaques. Le club de Lubumbashi a fini le match à 10 après l'expulsion du Zambien Sunzu Stopilan par l'arbitre à la 85e minute. Le rendez-vous est donc donné pour le match retour prévu le 20 octobre prochain au stade du 7 novembre de Rades, dans la banlieue de la capitale tunisienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.